Bonjour à tous. Prions pour ce début. Père Céleste, je te loue pour qui tu es, je te loue car tu es venu sur terre, tu as choisi ce chemin de venir et pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse te connaître, Seigneur. Je te prie qu'à travers ce message, on puisse encore mieux te découvrir. Je te prie de guider ma bouche, de guider les cœurs, Seigneur. Que tu sois vraiment toi qui parles à travers cette matinée, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Donc, la dernière fois que j'étais devant vous, alors plusieurs n'étaient pas là, donc rassurez-vous, mais je vous avais parlé de Job. Je vous avais fait quelque chose sur Job, la question de la souffrance, et je vous avais résumé Job chapitre 1 à 37. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu dans cette lignée de la question de la souffrance, qu'a un peu évoqué Mickaël ce matin, ce n'était pas concerté. Mais on va le faire à travers un exemple pratique, je vous en dis plus dans quelques instants. Tout à fait. Alors, juste un petit résumé quand même sur l'épisode précédent. Donc Job, c'est un homme qui a vécu sans doute à l'époque d'Abraham, au Moyen-Orient, qui aime Dieu, qui aime le servir, qui est très respectueux, là j'ai mis très pieux, et qui est aussi très riche. Il a beaucoup de richesses, il a une grande famille. Et il y a un épisode assez surprenant qui se passe dans le début du livre de Job, où en fait... Satan arrive devant Dieu et il dit « En fait, Job, il est juste intéressé. Je veux dire, il te sert, mais c'est simplement parce que tout se passe bien pour lui. Si ça se passait pas bien, tout de suite, il serait plus avec toi. » Et ce qui est surprenant, c'est que Dieu, il laisse faire Satan. Et du coup, Job perd tout. Il perd sa famille, sa richesse, sa santé aussi. Et la suite du livre de Job, à partir du chapitre 3, c'est des discussions entre Job et quatre amis qui, essentiellement, voilà, c'est des débats sur la question de la justice de Dieu. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est injuste? Tu peux passer. Des questions sur la question de la souffrance. Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce que c'est parce que j'ai fait des péchés? Est-ce que je souffre parce que Dieu est injuste, en fait, alors parce que j'ai pas fait de péché? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui tournent un petit peu. Ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que la grosse pensée qui parle du livre de Job, c'est il y a ce raisonnement logique qui est « si j'agis bien, alors Dieu va me bénir. Si j'agis mal, alors Dieu va me maudire. » Ça, c'est l'idée qui est derrière le livre de Job et c'est l'idée qui fait qu'il y a plein de débats, il y a plein de problèmes. En fait, cette idée, elle est complètement fausse. Et donc, voilà, retenez ça, cette idée, elle est fausse. Dieu n'agit pas de façon automatique. Il n'y a pas forcément de raison, et là dans ce livre on voit vraiment qu'il n'y a pas de raison pour le fait que Job soit dans une telle situation. Et en fait le problème est un peu plus général dans ce livre, ce qu'on comprend aussi c'est que le problème général c'est qu'on essaye de comprendre Dieu, on essaye de comprendre comment Dieu raisonne. On se dit, bon si cette première pensée est juste alors je sais comment Dieu fonctionne et donc dans un certain sens... je peux le manipuler, ou je peux au moins essayer de comprendre comment il fonctionne et moi agir en conséquence. Sauf que ça marche pas. Parce que si moi, avec mon cerveau qui est limité, je peux comprendre un Dieu illimité, il y a un problème. Et c'est le thème des derniers chapitres de Job, les chapitres 38 à 42. Dieu est au-dessus de l'homme. Dieu, il fait ce qu'il veut, il comprend bien mieux que nous, il connaît la cause, il connaît les conséquences. Dieu nous transcende, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous. Et initialement, je voulais faire ce prêche là-dessus, sur Job 38 à 42. Sauf qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, très récemment, et je voulais, en fait, du coup, vous partager le problème de la souffrance avec un exemple concret que j'ai vécu il y a un mois et demi. Donc ça va être un peu particulier, c'est pas vraiment un prêche, c'est plus un partage que je vous fais. Je me mets pas en exemple, voilà, je voulais juste vous partager ce que j'ai vécu, et vous dire aussi comment Dieu m'a aidé à travers ce mois et demi de difficultés que j'ai pu avoir. Donc je commence mon histoire. Il y a un mois, je rentrais après une semaine de vacances d'un certain mariage. Et j'ai découvert, donc j'arrivais le lundi midi chez moi, pour découvrir à ce moment-là que mon appart avait été complètement inondé. Donc inondé et pas juste, tu peux passer, et pas juste les eaux, voilà, ça n'a pas juste perlé des murs, non, c'était, en fait, il y avait eu un bouchon dans la canalisation de mes WC et tout était remonté par les WC. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir, il y a du liquide, il y a du solide, bref, c'était assez sympathique. D'habitude, j'aime bien illustrer mes messages, pour une fois, je ne vais pas le faire, je sais que vous en serez reconnaissants. Alors, Essentiellement, il y avait 90% de mon appart qui était recouvert d'eau, 50% aussi de solide. Mon plancher était complètement détruit parce que si je marchais dessus, ça faisait plouf plouf et il y avait de l'eau qui a monté un peu partout. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais noter encore? Ça suffit pour les détails. Et voilà, c'était pas forcément des plus agréables. En plus, j'ai appris que ça faisait au moins 4 jours que ça durait, comme j'avais été absent une semaine, donc c'était assez sympathique aussi. Bon, j'avais pas perdu trop de choses parce qu'il n'y avait pas trop de choses qui étaient par terre. Donc j'avais perdu quelques livres. J'avais perdu des corrections qu'on m'avait données à mon travail, mais heureusement que j'avais déjà enregistré, donc ça c'était bon. J'avais perdu un oreiller. Alors j'ai perdu un matelas, ça c'est plus anodin, c'est pas qu'il y avait une hauteur d'eau comme ça, c'est juste que le plombier, quand il est arrivé, il a eu la bonne idée de prendre tout ce qui était par terre et de le mettre sur le lit parce que ça le dérangeait. Donc voilà. Globalement, il y a eu plusieurs réactions dans ma tête. Alors ça, c'était une épreuve, c'est sûr. J'ai pensé à Job, mais je suis resté relativement calme. Par rapport à Job, c'était vraiment toute proportion gardée. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de mort d'homme. J'étais très fatigué du voyage de ma semaine, mais c'est pas grave, ça passerait. Le problème, c'est que je me suis assez vite rendu compte que ça allait prendre du temps. Et le temps, c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup, je fais beaucoup de choses. Je me rendais compte qu'il allait falloir aspirer l'eau et le solide, qu'il allait falloir enlever le parquet, déplacer les meubles, attendre que tout sèche, remettre un parquet, redéplacer les meubles. Entre temps, quand même être logé, aller au travail. Puis j'avais deux contrôles cette semaine que je faisais à Strasbourg par correspondance et là je devais aller sur place. Bon, voilà, c'était une semaine assez sympathique. Je me suis rendu compte assez vite que si l'aspect matériel me dérangeait pas tant que ça, l'aspect temporel par contre ça m'affectait beaucoup. Il fallait aussi que j'aille contacte les trois assurances, donc celle de la copropriété, la mienne et celle de mon propriétaire. Bon, voilà, sachant que j'adore l'administratif avec le téléphone. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le lundi, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Je suis allé ensuite à l'hôtel, relogé par mon assurance. Je suis arrivé à l'hôtel, j'étais complètement fatigué. Et là, la réservation a été mal faite, donc j'ai passé une demi-heure au téléphone avec mes assurances jusqu'à avoir une voix humaine pour finalement les passer à la réceptionniste. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de grâce et de patience. Le lendemain matin, j'ai vraiment pris un temps pour me poser et pour demander un peu à Dieu pourquoi. Je suis convaincu qu'on vit dans un monde spirituel et que les choses arrivent aussi parce que Dieu veut nous apprendre des choses, veut nous faire grandir. Et donc j'ai demandé à Dieu quelle est la leçon que tu veux m'enseigner à travers ça. Et en fait, tout de suite, j'ai eu énormément de versets qui me sont venus, mais tous ces versets, c'était des versets qui m'accusaient. C'est des versets qui me disaient « t'as mal agi, t'as fait des bêtises, t'as eu plein de péchés ». Je passe sur les détails, et je reconnais que j'ai des péchés, mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose qui était bon pour moi d'entendre, dans le sens où ça m'a juste enfoncé. J'ai commencé à culpabiliser. J'ai commencé vraiment à déprimer à ce moment-là. En plus, j'ai ouvert ma Bible pour ma lecture quotidienne et c'était un de ces versets-là. Et je me suis vraiment demandé, qu'est-ce que Dieu, tu veux me dire? J'ai vraiment eu un grand moment de déprime le mardi matin. Alors là, je peux vous le dire a posteriori, ça c'est des choses dont je me suis rendu compte. Je vous avais fait un prêche aussi en début d'année sur le combat spirituel et sur la façon que Satan peut avoir de nous attaquer quand on ne va pas bien aussi, en nous insufflant des idées fausses. Je dis pas que j'ai rien à me reprocher, mais qu'à ce moment-là, les idées n'étaient clairement pas des idées pour m'encourager à aller plus loin. Parce que Satan, il nous accuse, il nous attaque comme Job. Passez au suivant, s'il te plaît. Et Satan, il utilise la Bible. Ça, on le voit dans la tentation de Jésus aussi. Il peut utiliser des versets bibliques et ça a une impression spirituelle en nous donnant des versets. Mais de fait, à ce moment-là, ce n'était clairement pas quelque chose de bon pour moi. Ça m'enfonçait plus qu'autre chose. À l'inverse. Dieu, il ne nous culpabilise pas. Il peut nous montrer, nous pointer du doigt nos péchés, mais quand il nous corrige, c'est pour notre bien. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux 12, 11. Donc, on peut être repris par Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu n'est pas forcément positif au sens où moi je l'aimerais. Mais ce qui vient de Dieu est toujours pour nous faire avancer, nous faire progresser. Donc c'était vraiment, j'ai noté tout en haut, je suis pas sûr que ce soit bien lisible, c'était ma leçon, ma première leçon un peu de cette période-là. Et donc au milieu de tout ça, à la fin du mardi, j'en pouvais plus, et j'ai pleuré un grand coup. de vendu. Je lui ai dit que j'en pouvais plus, que je craquais nerveusement, parce qu'il y avait trop de choses à faire. J'étais pas forcément. Non, je n'étais pas énervé contre lui. Juste, je comprenais pas et ça faisait un peu trop de choses en même temps. Et en fait, Dieu est fidèle parce qu'en tout et pour tout, j'ai dû prier 10 secondes. Parce qu'en 10 secondes, Dieu m'a donné un autre verset. Et tout de suite, ça m'a encouragé avec ce verset-là. Et c'est ce verset-là que je vais vous partager ce matin et sur lequel je vais un peu plus vous montrer des leçons que j'ai reçues. C'est le passage dans Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Donc, je vais vous expliquer en quoi ce passage m'a parlé, parce que c'est peut-être comme ça, ça a l'air peut-être un peu étrange. Alors, tout d'abord, un peu de contexte sur ce passage-là. Ce passage, il a lieu le dernier soir de Jésus sur Terre, donc juste avant qu'il ne soit arrêté, qu'il soit livré et qu'il meure le lendemain. Ils sont en train de faire le dernier repas, le repas de la scène. Et à un moment, Jésus dit ça à Simon-Pierre. Il sait très bien que Pierre va le trahir dans quelques heures. Il sait très bien qu'il va être arrêté dans quelques heures. Mais ce que je trouve beau dans ce passage, outre le fait « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé », qui est un peu ce dont je vous ai partagé juste avant, ce que je trouve beau, c'est « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Je trouve beau ce fait que, alors que Jésus, à ce moment-là, il a toutes les raisons du monde d'être égoïste, il ne le soit pas. Il pense déjà à Pierre, il pense à ce que Pierre va passer, parce que ensuite Simon-Pierre va culpabiliser d'avoir renié, et il pense déjà à lui, et il l'encourage déjà pour ce qui va passer par la suite. En plus, Simon, c'est un personnage qui me touche beaucoup, parce que j'avais joué ce rôle dans une pièce de théâtre, et je trouve aussi intéressant qu'il l'appelle Simon à ce moment-là, et pas Pierre. Et je trouve que c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus fraternel aussi. Voilà, ça c'est mon interprétation. Tu peux passer, je sais pas si... Voilà, je vous lis aussi les versets justement qui suivent. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. » Voilà, c'est le contexte immédiat, c'est le reniement de Pierre. Mais dans ce reniement de Pierre, il y a Jésus qui prie pour Pierre. Et je trouve ça beau. Et j'ai vraiment eu cette pensée à ce moment-là. Dieu, il connaît mes difficultés. Il connaît les difficultés dans lesquelles j'arrive. Il savait très bien ce qui allait m'arriver au moment où j'allais ouvrir ma porte chez moi. Et il a déjà... Jésus a déjà prié pour moi. Jésus a déjà pris soin de moi. Jésus, il m'aide à traverser ces moments-là. Voilà, ça c'est vraiment la partie phare pour moi. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. C'est plus dans le contexte de trahison. Jésus intercède pour moi. Voilà. Moi, dans la suite du verset, c'est « Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et donc, quand j'ai eu cette paix, parce que Jésus m'avait donné ce verset, et parce que je savais que Jésus priait pour moi et intercédait pour moi, la conviction suivante, c'était « Il faut que je change mon prochain prêche du 10 juin pour aussi vous partager ça, pour vous partager ce que j'avais appris. » Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, très concrètement. Dieu prend soin de nos affaires quand on lui fait confiance. Et ça, je l'ai bien vu dans le reste de la semaine. Donc je vous ai parlé, j'avais ces deux examens à Strasbourg par correspondance. Il y en avait un que j'avais déjà un peu révisé, l'autre pas du tout, et je voulais consacrer mes trois premiers jours de la semaine à le réviser. J'avais calculé que si j'avais zéro à cet examen-là que j'avais pas du tout révisé, il faut que j'ai 17 à l'autre. Bon, ça. J'avais fait le calcul très rapidement. Celui que j'avais déjà révisé, c'était un oral qui avait lieu le jeudi matin. Et du coup, comme c'était un oral, j'ai eu ma note tout de suite et j'ai eu 17. Et l'autre, c'était des textes qu'il fallait apprendre, et j'avais pas du tout le temps de tout réviser, donc j'en avais ciblé que quelques-uns. C'est tombé exactement sur un de ceux que j'avais ciblé. Dieu, il dirige des choses. Il y a eu un deux. Bon, la semaine n'était pas finie parce que dès que j'ai suis sorti de mon deuxième examen, on m'a téléphoné parce que l'an prochain, bon, pour simplifier, je cherchais du travail. Et on m'a proposé un poste pour l'an prochain, un travail, qui n'était pas forcément génial, mais qui me permettait ensuite, l'année d'après, d'avoir a priori exactement ce que je voulais. Et on me laissait 24 heures pour réfléchir. Donc c'était un petit peu la semaine de tous les stress possibles et imaginables. Bon, on peut faire pire. Mais, et en sachant que je candidatais à un autre poste à côté, J'ai finalement décidé de faire confiance à Dieu et de ne pas choisir dans la précipitation et de laisser l'autre, alors que l'autre, j'avais aucune certitude de l'avoir. Et je sais depuis 2 semaines que je l'ai eu. Donc, si je résume un peu ma semaine, voilà. J'arrive, j'ai ce dégât des os alors que je suis complètement fatigué. Je considère vraiment que j'avais pas beaucoup de temps déjà et que ce temps m'a été complètement volé. Mais Dieu m'a complètement guidé dans mes révisions, dans la validation de ces examens. Et il m'a guidé dans mon avenir et dans mon métier. Donc quand même, c'est une semaine, voilà, pas forcément facile, mais où Dieu a vraiment agi. Je l'ai vraiment vu à l'œuvre. Et je vais vous lire un autre texte qui se trouve dans Hébreux 12, versets 1 à 4. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Tu peux revenir, suivant. Voilà, j'avais particulièrement, c'était le tout début de ce passage, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. On est dans des épreuves dans cette vie, et la Bible ne nie pas qu'il y a des épreuves, mais elle nous encourage à persévérer, à aller de l'avant, et à garder les yeux fixés sur Jésus. Et j'étais vraiment très content ce matin quand tu as proposé le chant « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut ». En fait, avant ce passage-là, je pensais plutôt faire le psaume 52 qui est « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, le secours me vient de... »
121,
d'accord, excusez-moi. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment, voilà, en fait j'avais prié pour qu'il y ait un de ces chants là, parce qu'il y en a 3 en fait dans les je lève les yeux vers les montagnes, et donc je suis trop content. Et alors qu'est-ce qui me parle ce passage? C'est ok, on a des épreuves, mais il faut garder les yeux fixés vers Jésus, car Dieu, au milieu des difficultés, il nie pas qu'elle existe, mais il gère. C'est ce que, encore une fois s'il te plaît, voilà, tout est une question de regard. Je me suis interrogé. Et dans la tempête, je crois que Jésus, il a 2 comportements. Soit il marche, soit il dort. Soit il marche sur l'eau, soit il dort. Et je trouvais ça assez intéressant aussi pour notre vie, parce que je ne pense pas que ce soit les réactions qu'on a quand on est en pleine tempête. Soit de dormir tranquille, soit de marcher sur les difficultés. Et au niveau de marche sur l'eau, je trouve intéressant aussi, c'est dans le passage où il marche sur l'eau, il y a aussi Simon, toujours le même, qui veut aussi marcher sur l'eau. Et du coup, Simon, Jésus lui dit, viens. Et Simon, il commence à marcher sur l'eau. Et tant qu'il regarde à Jésus, il peut marcher sur l'eau. Et puis à un moment, il se rend compte que quand même, il y a des choses bizarres qui sont en train de se passer. Il est quand même en pleine tempête, en train de marcher sur l'eau. Et à partir du moment où il arrête de regarder à Jésus, il commence à s'enfoncer. Et Jésus le sort de l'eau et lui dit « Pourquoi as-tu douté ?» Et je pense que c'est vraiment une question de regard pour réussir à être à l'équilibre. Alors je vous ai mis une photo juste après d'un équilibriste, d'un funambule. Alors, je vais faire une petite expérience, je ne sais pas si ça marche pour vous, moi en tout cas ça marche très bien. Si je veux faire un équilibre, comme ça, en fait ça marche beaucoup mieux si je regarde au loin que si je regarde sur ma jambe, parce que là je vais essayer de trébucher. Alors je vous propose, pour ceux qui le peuvent, de le faire, de tenter l'expérience. Voilà, pour ceux qui le peuvent. De vous lever, tenter, regarder au loin, et regarder à la jambe, et moi en tout cas je suis moins stable. Quand je regarde à ma jambe. Voilà. Alors, est-ce que certains confirment que je dis pas complètement n'importe quoi? Bon, il y en a qui confirment. Merci, Angèle. Mais ce que je trouve intéressant dans cette petite expérience, c'est que ça montre que notre simple regard détermine tout notre corps, détermine notre corps tout entier et notre attitude. Si on regarde au loin, si on regarde à Jésus, si on regarde à Dieu, on est en équilibre, en tout cas moi. Mais si je regarde à mes pieds et que je vois que je suis peut-être pas stable, alors je vais effectivement ne pas être stable. Alors, je passe. Donc ça, c'était ma deuxième leçon. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Et plus globalement, ce que ce passage m'a aussi montré, c'est que mon problème global, c'est que j'essaye toujours de me débrouiller tout seul, de tout faire tout seul, de tout gérer tout seul. Là, par exemple, cet été, je vais être directeur d'une colonie de vacances. On est 3 directeurs, mais je peux avoir une tendance à faire les trucs le plus vite possible, comme ça c'est fait. Alors, ce n'est pas bon en soi. C'est un vrai problème. C'était déjà la révélation un peu finalement du passage précédent. J'ai besoin de l'aide de Dieu, je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin de cette aide de Dieu. Parfois, je peux avoir une tendance à me dire, bon, ça c'est bon, je peux gérer cette partie-là. Alors que non, profondément, dans chaque étape, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Et je n'ai pas besoin que de l'aide de Dieu. Ah oui, j'avais dit ça d'abord. Alors, j'ai aussi besoin de l'aide des autres. Et je vais souvent avoir une tendance à ne pas le faire. Alors, est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est une peur de déranger? Voilà, moi je sais à peu près pour moi, je laisse chacun évaluer parce que je ne pense pas être le seul à ne pas oser déranger les autres. Mais dans le contexte de Luc 22, quelques temps avant, il nous est dit que Jésus nous appelait son ami. Et dans le contexte toujours de Luc 22, quelques versets avant le passage que je vous lis, il y a un moment où les disciples se demandent un peu entre eux qui est le plus grand. Qui est le plus grand parmi eux? Et la réponse de Jésus, c'est « Humiliez-vous les uns envers les autres, soyez les serviteurs les uns des autres. » Globalement, ce n'est pas une question de qui est le plus grand, ce n'est pas une question de celui qui pourra le plus en faire. Parce qu'on est un corps, on est tous liés et on a besoin de l'aide les uns des autres. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte cette semaine-là, parce que Dieu, il m'a envoyé des personnes que je n'avais pas forcément demandé pour m'aider. Notamment le mardi, c'était un mardi férié, et donc j'avais trois amis que j'étais censé voir à ce moment-là. Et du coup, je leur ai envoyé un message, je peux pas venir. Et je leur ai expliqué très rapidement pourquoi. Ni une ni deux, ils sont tous les trois venus m'aider. Il y en a deux qui ont acheté tout de suite des gants à la tech et puis qui sont venus. Il y en a une qui a pris toute sa crème à récurer et qui est venue parce qu'ils se doutaient que j'avais pas beaucoup de produits de ménage. Mais bon, moi je me disais, oh, ça devrait être assez vite, à deux personnes en une demi-heure c'est fini. Bon, on y est passé 4 heures à 4 et c'était pas vraiment fini. Bon, je pense que je suis pas très réaliste sur tout ce qui est ménage aussi. Et j'ai vraiment appris cette leçon au cours de cette semaine que je peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin de l'aide des autres. Et du coup, j'ai vraiment été aidé dans les semaines qui ont suivi. La deuxième semaine, où je ne pouvais toujours pas dormir chez moi, j'ai dormi chez les Jalaguiers, qui ont accepté de me loger, de me nourrir, de me déplacer, de s'adapter à mon emploi du temps un peu chaotique. Y a mes parents qui sont montés en express depuis Chambéry pour 3 jours pour tout nettoyer, ranger, déplacer. Et à la famille Vanzo qui m'a permis d'utiliser les machines à laver chez eux. Donc on a pu lancer 8 machines à laver en parallèle. Bon, c'était assez sympa. Il y a François Caron qui m'a prêté un déshumidificateur pour accélérer les choses, qu'on puisse poser le nouveau plancher plus vite. Il y a Nicolas Kreis, un autre ami qui sont venus m'aider à déplacer les meubles, à détruire le parquet aussi. Il y a un autre ami qui est venu m'aider à remettre les meubles. Je sais aussi qu'il y en a plusieurs qui ont prié. Et voilà, je voulais déjà juste remercier tous ceux qui sont là et qui ont pu m'aider dans ces moments-là. Ça me fait penser au passage de Proverbe 17:17. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Et vraiment, ouais, ce que m'a aussi appris cette semaine, c'est que j'ai besoin de l'aide des autres. J'ai pas passé depuis longtemps. Merci. Tu peux passer, Sylvain, s'il te plaît. Ouais, reviens en arrière, pardon. Pas tout de suite. On a besoin de l'aide des autres. Dieu nous a créés en relation les uns avec les autres. Il a donné des dons à chacun, il a donné des capacités à chacun. Et il veut aussi nous encourager les uns les autres. On a besoin des prières des autres. Et je veux vraiment aussi m'encourager, nous encourager, vous encourager à ne pas hésiter à demander de l'aide auprès des autres et ne pas hésiter aussi à demander des nouvelles précises des autres. Parce que c'est pas forcément facile de parler de soi. Mais du coup, je veux vous encourager à demander des nouvelles précises aux autres, pas juste le « ça va, ça va, ça va, ça va ». Mais le « comment ça va dans ta vie de foi, comment ça va au boulot, comment ça va dans ta relation avec Dieu ». Et aussi, vous encourager, quelque chose que je mets en place depuis quelques temps parce que je l'ai trop mal fait pendant longtemps, quand je dis à quelqu'un que je veux prier pour lui, je le fais tout de suite. Parce que sinon, il y a trop de prières que je vais oublier juste après. Donc, voilà, je suis conscient, j'ai dit beaucoup de choses. Je vais juste faire un petit bilan, un peu des leçons que j'ai retenues cette semaine. La première leçon qui concerne le combat spirituel, Dieu ne nous fait pas déprimer. Dans Satan, il essaye de nous accuser, il essaye de nous mettre plus bas que terre quand on ne va déjà pas bien. Dieu, il nous console et il nous permet d'aller plus loin. Ce qui ne veut encore une fois pas dire qu'il n'a que des paroles positives, mais ce qui veut dire que quand il nous reprend, c'est pour notre bien. La deuxième leçon, c'est que pour avoir un bon équilibre, il faut que je regarde à Dieu. Il faut que j'arrive à regarder à Dieu au milieu des difficultés, parce que lui, il gère, et il peut m'aider à gérer si je regarde juste à lui, en fait, et si j'oublie ce qui se passe autour. La leçon qui est un petit mélange de la leçon 2 et la leçon 3, j'ai besoin de l'aide des autres, que ce soit de Dieu ou des personnes, de l'église, des amis, des frères. Et la dernière leçon, c'est non seulement j'ai besoin, mais c'est il faut la chercher à certains moments. Ne pas hésiter à aller vers les autres. Alors, pour conclure ce temps, je vous propose des petits travaux pratiques. Alors, comment on va faire ça concrètement? Je vous propose un temps de prière en petit groupe. Alors, je vous explique comment on va faire ça et puis ensuite on se déplacera. Ce que je vous propose, c'est 5-10 minutes où on peut échanger par petits groupes de 4 des sujets et puis prier un sujet par personne. Et puis prier pour cela, ça peut être quelque chose qui concerne votre travail, ça peut être quelque chose qui concerne votre vie personnelle ou professionnelle. Si vous n'êtes pas habitué au fait de prier, si vous n'aimez pas prier à haute voix, sentez-vous libre, il n'y a aucune pression là-dessus. Juste vous inviter à le faire librement et ne pas vous sentir jugé. Vous pouvez aussi dire que vous priez à voix basse, aucune difficulté. D'un point de vue technique, je vais proposer au préado, à Martine, de venir avec moi sur l'estrade. On va prier ici en plus petit groupe. Et puis au niveau des autres, je vous propose de le faire, voilà, de faire 4 par 4 en vous retournant. Donc c'est deux rangs ensemble, voilà. Je vous laisse. Et préado, si vous voulez venir dans le.